CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Madame, monsieur, bonjour, Rémi Thoreau est là avec vous, pas pour la prochaine demi-heure, puisque aujourd'hui, je laisse la place à Kader Youb pour Politiquement Votre.
Bonjour, Chantal Mauchet. Madame la préfète de Tarn-et-Garonne, merci d'avoir accepté de venir en studio, d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio pour faire un point sur les sujets qui vous préoccupent à vous et qui préoccupent aussi les Tarn-et-Garonnais. Nous allons aborder avec vous la sécurité dans le département et évoquer le bilan de l'année écoulée que vous avez présenté il y a quelques jours. Un nouveau dispositif, le contrat d'engagement jeune renforcé à destination des jeunes en rupture. Et enfin, l'avenir du département et notamment les grands chantiers qui se profilent et qui vont redessiner en quelque sorte notre département pour les années à venir. Bienvenue donc à vous sur CFM Radio.
Bonjour Kader Youb, merci de donner la parole à la représentante de l'État et notamment sur ces sujets qui sont très importants pour l'action de l'État dans le département.
Alors, une première question, si vous permettez, Madame la Préfète, avant d'aborder ces grands trois chapitres. Vous êtes arrivée fin 2020 en Tarn-et-Garonne, vous avez découvert ce territoire. Comment le voyez-vous aujourd'hui, après un peu plus de 2 années de terrain ?
Oui, en effet, ça fait 2 ans que je suis en exercice sur ce département. Eh bien, il est très, très diversifié, on ne peut pas le résumer. C'est une dimension plurielle. Il y a évidemment les paysages, parce que moi j'aime beaucoup appréhender un territoire par sa géographie, ses paysages, sa culture, son histoire. Enfin, j'ai eu l'occasion de vous le dire lors d'une précédente émission, mais j'aime beaucoup connaître et découvrir un département à fond. D'ailleurs, je sors très peu du département. J'aime beaucoup le sillonner, les week-ends et quand j'ai du temps de libre, pour bien le comprendre. Parce qu'il faut absorber son histoire et sa culture avant de pouvoir exercer et prendre des décisions. Eh bien, ce département, il est, comme vous l'avez dit, avec une richesse déjà actuelle et très forte. Mais il a aussi beaucoup d'avenir avec les grands projets qui se préparent.
Mais on l'évoquera dans une troisième partie. Mais quelle analyse vous faites, Madame la Préfète, des problématiques que vous avez pu rencontrer ici dans notre département au regard de celles que vous avez pu analyser dans vos postes précédents ? Est-ce que vous voyez des différences, des problématiques que vous avez relevées, particulièrement pour le Tarn-et-Garonne ?
Oui, alors on est aussi dans une conjoncture spécifique. Hein. Oui. On sort d'une crise, on est toujours dans une autre crise, on sort d'une crise pandémique, on est toujours dans une autre crise qui est la crise ukrainienne et par-delà la crise ukrainienne, tout le bouleversement des marchés économiques et des problèmes économiques qui se posent et donc qui ont des répercussions aussi sociales. Donc forcément tout ça, c'est pour la représentante de l'État des critères à prendre en compte et qui font que le département n'est certainement pas celui qu'il était il y a 3 ans. Mais en termes justement d'économie, moi je trouve un département qui a beaucoup de résilience avec un tissu économique très fort, très bien structuré, ancien ou familial et qui sait s'adapter. Au niveau social par contre, on a un département qui souffre d'une pauvreté, hein, sur le milieu rural, en milieu urbain, on a des quartiers politiques de la ville, des quartiers prioritaires, où on a une action renforcée de l'État et des collectivités locales. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On a un département où il faut faire de l'action et de l'accompagnement social en lien avec les collectivités locales. On a également une agriculture qui est forte, forte en termes de plus-value, mais qui est à la croisée des chemins parce qu'il y a le changement climatique, il y a beaucoup d'enjeux pour eux, pour les agriculteurs, et je suis le plus possible à leur contact.
Vous avez été, j'allais dire en pointe, mais vous avez été sur le terrain par rapport à ces agriculteurs qui ont souffert du manque d'eau. Est-ce que vous n'interdisez pas d'arrêter encore une fois des restrictions, puisqu'on sait que malheureusement, il manque encore beaucoup d'eau. Est-ce que vous pensez que la situation est encore grave ?
Oui, bien sûr. L'enjeu de ce département, c'est la ressource en eau. C'est de pouvoir la partager à tous, enfin à tous les usagers, tous les usages, de préserver l'eau potable, qui est le premier des usages pour la population, et puis de permettre les autres usages. L'agriculture, c'est pas le seul usage, mais il y a une irrigation agricole dans ce département, et c'est important. C'est important pour l'alimentation.
Madame la préfète, vous avez autorisé il y a quelques jours à peine, je ne connais pas la date exacte, mais vous avez autorisé le prélèvement. Est-ce que vous allez y revenir sur cette autorisation de prélèvement?
Alors, j'ai fait des restrictions de prélèvement d'eau, des restrictions sur l'eau potable depuis le 28 juillet dernier. Il faut savoir que l'an dernier, sur l'été, la période de canicule, la période de sécheresse, c'est-à-dire la période où on manquait d'eau, elle a commencé très tôt. J'ai commencé à faire des restrictions et des cellules de suivi de la sécheresse à partir du mois de mai. Et elle s'est terminée, elle ne s'est même pas terminée, puisque on a terminé le suivi de la sécheresse toutes les semaines, à peu près au mois de novembre, ce qui n'a jamais été aussi long. Et les restrictions, je ne les ai levées qu'il y a 10 jours. Et peut-être qu'on va les reprendre.
Mais voilà, j'allais vous poser cette question. Vous allez reprendre des restrictions?
C'est ce qui se profile, en tout cas. Aujourd'hui, nous avons encore un déficit en eau parce que les ressources, les réserves d'eau sont quasiment vides. Sur toute la région, hein, les Pyrénées, sur l'Aveyron, où on a aussi des retenues en eau. Donc, elles sont vides ou très peu remplies. Il faut espérer, pardon, hein, ça ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais il faut espérer un printemps pluvieux, un printemps pourri, pour pouvoir remplir ces réserves.
Mais il y aura des restrictions, c'est en tout cas ce qui
se profile. De toute façon, il y en a surtout. Tous les étés, oui. Mais l'été dernier a été très très important en termes de restrictions, oui.
Alors, Madame la Préfète, il y a quelques jours, vous avez dressé le bilan de la politique départementale de sécurité avec le commandant de gendarmerie du Tarn-et-Garonne et le directeur départemental de la sécurité publique. Les chiffres ont retrouvé un niveau d'avant-Covid, c'est vous qui le dites, avec une augmentation des faits de délinquance générale, confirmant bien sûr une tendance nationale à la hausse. Quel est votre regard sur ces chiffres et comment vous analysez cette situation difficile?
Oui, il y a une reprise de la délinquance, c'est-à-dire qu'on est quasiment au même niveau qu'en 2019, avec de l'ordre de 10 000 faits qui sont constatés par la police et la gendarmerie. Donc nous avons, oui, des hausses, mais nous avons aussi des actions très, très ciblées, des actions très fortes de la police et de la gendarmerie sur le département. On peut aussi penser que, par exemple, pour les violences intrafamiliales, qui sont en hausse, il y a en partie le fait que la parole se révèle plus facilement maintenant, que ce soit la victime elle-même, mais aussi la famille ou les personnes qui sont autour de cette famille. Donc, c'est aussi une révélation plus forte.
C'est une priorité, Madame la Préfète, pour vous, les violences intrafamiliales?
Absolue. C'est une priorité absolue, partagée maintenant, largement partagée par, au sein de la police, au sein de la gendarmerie, qui se sont organisées, qui ont des équipes dédiées, qui ont des procédures dédiées. De la justice aussi, le procureur est avec nous, on fait des réunions chaque semaine et là aussi, on analyse les faits et le procureur poursuit, même s'il n'y a pas de dépôt de plainte. Il y a des partenariats avec l'hôpital, avec les collectivités locales pour des relogements d'urgence. Il y a toute une chaîne de solidarité pour faire que cette thématique-là, elle est prise en charge.
Sur les violences intrafamiliales, les violences conjugales, comment vous expliquez qu'ils soient aussi en hausse? Et d'ailleurs, c'est une tendance là aussi nationale. Est-ce que ça provient du fait de la crise sanitaire, la crise inflationniste, la crise ukrainienne, tous ces soubresauts, en fait, en quelque sorte, qui jalonnent la vie des individus? Est-ce que ça peut provenir de là, d'après vous, l'alcool?
Oui, il y a 800 faits de violences intrafamiliales, violences conjugales dans le département par an, enfin en 2022. Donc ça veut dire plus de 2 faits par jour. C'est une activité très forte pour les services. Je dirais, on peut pas l'analyser d'une façon très précise puisque ça touche toutes les catégories sociales, toutes les classes d'âge. C'est un phénomène malheureusement de société que l'on souhaite restreindre le plus possible, notamment par la prévention. Alors restreindre, pardon, c'est même pas le bon terme, c'est de sanctionner. Mais sanctionner, certes, mais il faut prévenir et prévenir très tôt. C'est des actions que l'on mène aussi dans l'éducation, auprès des plus jeunes, pour éviter que la violence s'instaure, notamment et à travers des stéréotypes et des différences.
Tout un travail de pédagogie, de prévention.
Voilà, entre filles et garçons.
Alors, si pour les femmes qui nous écoutent et qui sont victimes de violences intrafamiliales, de violences physiques ou morales, de harcèlement, est-ce qu'elles peuvent d'ores et déjà appeler le commissariat ou la gendarmerie? Il y aura une personne qui les prendra en charge, c'est ça?
Bien sûr, bien sûr. Non seulement on les écoutera, on les recevra, on fera un accueil dédié. La gendarmerie a une brigade de protection des familles avec un lieu dédié et des professionnels pour cela. La police également a une équipe qui est spécialisée pour l'accueil spécifique des femmes victimes, des enfants victimes.
Un mot aussi sur l'insécurité routière. Il faut en parler, madame la préfète. 22 morts sur les routes en 2022. Le Tarn-et-Garonne qui se classe 6e département le plus meurtrier. Qu'est-ce que vous en dites de ce chiffre ?
C'est inacceptable que nous faisons des contrôles routiers sans relâche.
Vous allez les intensifier ?
Nous allons les intensifier. Je vais sur place également. Hein. Quand je vais sur place, je vois aussi toute la difficulté du travail des policiers et des gendarmes. Parce que quand on arrête une voiture, on ne sait jamais comment va réagir le conducteur et déjà s'il va s'arrêter. Les délits de fuite et les refus d'obtempérer sont en hausse. Et ça, je le souligne parce que ça met en danger les policiers et les gendarmes. On a eu des agents qui ont été blessés au cours de l'année 2022 pour des faits de fuite et de refus d'obtempérer. Donc c'est un travail difficile.
Un dernier mot sur ce chapitre, l'installation prochaine d'une brigade CRS à Montauban et l'implantation de nouvelles brigades de gendarmerie. Alors vous avez annoncé que plusieurs communes s'étaient portées candidates. Est-ce que ça y est, c'est décidé? On sait quelles sont les communes en Tarn-et-Garonne qui vont accueillir des brigades de gendarmerie?
Oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Hein. C'est dans la loi d'orientation pour le ministère de l'Intérieur. Ça a été voté au niveau de la loi. Et donc c'est le ministre qui va décider au printemps. Il a demandé à tous les préfets de faire des propositions et nous en avons faites au niveau du Tarn-et-Garonne avec les élus. Donc plusieurs maires m'ont fait des propositions et je vais faire remonter des propositions à la fois de brigades de gendarmerie fixe, c'est-à-dire des logements et des locaux techniques pour la gendarmerie, et des brigades mobiles qui, à partir d'une brigade existante, seront mobiles sur le département. Et là, il faudra également loger des gendarmes. Donc, les communes font cette proposition. Et l'unité de CRS à Montauban a été décidée, là, pour le coup, le ministre l'a annoncé. Les travaux vont se faire très prochainement pour une ouverture début 2024.
Elle sera située où, cette brigade ?
Sur Montauban et sur ou à proximité de l'enceinte de la CRS 28 qui existe déjà.
Qui existe déjà. Est-ce qu'elle aura vocation, ces CRS, ils auront vocation à venir soutenir leurs collègues policiers ici sur le terrain à Montauban par exemple ou ailleurs ?
Oui, bien sûr. Oui. C'est une unité de CRS violence urbaine, donc elle va être projetée sur l'ensemble de la zone de défense pour des faits d'ordre public hein, sur les grandes villes. Mais lorsqu'elle ne sera pas en déplacement, elle pourra également servir à la sécurisation et en appui des policiers.
Un autre sujet, madame la préfète, le contrat d'engagement jeune, le CEJ, qui était déjà mis en œuvre il y a quelques mois, avec un nouveau volet que le gouvernement a voulu mettre en place pour les jeunes dits en rupture. Pour les jeunes qui nous écoutent, et leurs familles, en quoi cela consiste? Quel est ce dispositif et à qui va-t-il s'adresser finalement?
Alors, le contrat d'engagement jeune renforcé, c'est pour les jeunes en rupture, c'est-à-dire qui ont tourné le dos à l'école, aux études, à la formation et à l'emploi, et qui ne vont pas vers les pouvoirs publics. Donc, ces jeunes en rupture, on les estime à peu près à 6 000 dans le département, hein, sur 25 000 jeunes, c'est entre 16 et 25 ans. Nous avons la chance dans le département qu'un groupement d'associations avec des professionnels spécialisés, ce groupement a répondu à un appel à projet de l'État. C'est une opération financée par l'État. Et ils vont prendre en charge la recherche de ces jeunes, parce qu'il faut aller vers.
Il faut aller les chercher.
Il faut les,
c'est une démarche
les identifier.
Vers.
Voilà. Et puis, ils sont toute une palette d'intervenants. Il y a notamment il y a Ressources Jeunesse, hein, l'ex-raison des ados. Il y a EPIS 82 sur la toxicologie. Et puis, la mission locale pour l'emploi. Il y a plusieurs intervenants, hein, je ne les cite pas tous. Et donc, ils ont un objectif de suivre, enfin de repérer et de suivre plusieurs jeunes, 200 jeunes sur 2 ans. Parce que là, c'est un travail de fond à faire avec chaque jeune où on le voit, ils ont soit des problèmes de santé, ils ont des problèmes aussi d'absence de liens familiaux ou en rupture avec la famille. Donc, il faut faire tout ce travail-là aussi avant de pouvoir les amener à un emploi.
On sait à peu près combien il y a de jeunes dits en rupture qui sont en dehors de tout système scolaire, familial aussi, hein, oui. Qui sont aussi en rupture avec leur famille parfois.
C'est ça, c'est ça. Alors, la proportion est plus importante en Tarn-et-Garonne. 25 000 jeunes entre 16 et 25 ans sur le département, à peu près 6 000 dans cette situation. Donc c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. C'est presque le quart, c'est beaucoup. Et c'est plus que la moyenne nationale.
Alors, Madame la Préfète, si une famille qui nous écoute là rencontre une difficulté avec un enfant ou un proche, que doit-elle faire en priorité sur ce dispositif?
Alors, elle peut adresser ce jeune à la préfecture, évidemment, oui. Qui prendra en charge et qu'il l'enverra sur ce regroupement d'associations. Et l'association qui est chef de file, qui est responsable de ce dispositif pour l'État, c'est Ressources Jeunesse. Donc, c'est l'association qui pilote et qui met en relation avec les autres intervenants.
Est-ce que tout le monde peut y prétendre? Est-ce que tous les jeunes peuvent y prétendre à partir du moment où ils ont plus de 16 ans?
Bien, il faut que... Alors, le contrat d'engagement jeune, c'est un contrat, donc sur plusieurs mois, avec une indemnité, mais surtout des services qui leur sont proposés, un accompagnement. Il faut que ce jeune en fasse la demande. Là, pour les jeunes en rupture, c'est vraiment des jeunes qui ne font aucune demande. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller les chercher.
Alors, il faut aller les chercher, mais il faut qu'il soit motivé aussi, ce jeune-là, pour entrer dans ce dispositif. Je crois que ça fait partie de ce dispositif. C'est-à-dire qu'il faut que le jeune, vraiment, ait envie de s'intégrer dans ce parcours.
Oui.
C'est une condition sine qua non, sinon ça ne marche pas.
Ah bah bien sûr, puisque c'est un contrat. Donc il faut qu'il adhère au contrat, parce qu'on peut aussi résilier le contrat hein, des deux parties. Mais c'est tout le travail d'approche, de lien, de confiance que font les associations. Tous n'iront pas jusqu'au contrat, mais leur travail, c'est d'apporter une réponse très personnalisée, très à la carte pour chaque jeune.
Alors, on a parlé de la sécurité, qui est une préoccupation des Français, de la transition énergétique, bien sûr, et du changement climatique. Mais restons quelques instants sur les jeunes. C'est une de vos priorités aussi, les jeunes, parce qu'on sait qu'ils ont été durement touchés par la crise sanitaire, comme tout le monde, bien sûr, mais avec une particularité quand même pour ces jeunes. Est-ce que y a d'autres dispositifs qui vont arriver pour ces jeunes-là, qui sont en difficulté?
Évidemment, les jeunes, c'est notre préoccupation, c'est l'avenir du département, c'est l'avenir de la nation. Il faut les aider le plus possible. Le gouvernement a mis en place déjà depuis 2 ans des politiques prioritaires pour les jeunes, hein, une solution et donc des mesures très fortes. Avec Pôle emploi et Mission locale, on travaille pour voir comment... ces jeunes vont vers l'emploi et faciliter leur accès à l'emploi. Mais je crois que dans le Tarn-et-Garonne, il faut aussi qu'ils se donnent des perspectives, ces jeunes. On va avoir beaucoup de projets, de grands chantiers. Il faut des qualifications, il faut des jeunes qui aillent en enseignement supérieur, alors qu'on voit bien qu'ils n'y vont pas spontanément, nos jeunes Tarn-et-Garonnais. Donc il faut leur donner toutes ces perspectives-là également.
Alors, on va terminer sur une note optimiste et de perspective, en tout cas. Vous avez installé le 18 janvier le comité départemental de suivi du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, c'est ça ?
C'est l'instance départementale, parce qu'il y a une instance de gouvernance qui est interrégionale, c'est sur l'ensemble de la ligne Bordeaux-Toulouse. Cette instance de gouvernance régionale, elle est pilotée par le préfet et coordonnateur de la région Occitanie. Et donc, il a demandé à chaque préfet de département traversé par cette ligne d'avoir des instances de suivi départemental, tout à fait.
Alors, ça y est le dossier lancé ?
Oui, bien sûr. Il a été lancé et signé par le Premier ministre début 2022. Les premières procédures, mesures, études vont se mettre en place.
Oui. Démarrage des travaux 2023-2024 ?
Alors, il y a les travaux... Non, il y a des procédures, et des études et des procédures d'autorisation qui sont à mettre en place, notamment en termes environnementaux. Ce sont des procédures qui seront pilotées au niveau national, puisque c'est un projet d'équipement national. Mais bien sûr, ce sont des choses que nous allons suivre au niveau départemental.
Il y avait quelques difficultés avec des propriétaires d'entreprises, notamment à Bressol, qui allaient être expropriées. Est-ce que ce problème-là, il est réglé ? Il n'y a plus de soucis de ce côté-là ?
Alors, la déclaration d'utilité publique, elle date déjà depuis plusieurs années. Donc, les acquisitions foncières sont en cours depuis plusieurs années. Elles vont reprendre maintenant à la faveur de ce nouveau lancement. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a la ligne LGV, il y a la gare LGV, le département va avoir une gare LGV, et il y aura dans le même pas de temps un nouvel échangeur autoroutier et la construction de l'hôpital de Montauban. Donc tout ceci est un seul chantier pour l'État qui est quelque chose de très important et majeur pour le département.
Madame la préfète, le temps passe vite et nous sommes obligés de nous quitter. Juste un petit mot, si je peux me permettre. Est-ce que vous avez lu le livre de Jean-François Carenco, ancien préfet de Tarn-et-Garonne, qui est aujourd'hui ministre chargé des Outre-mer, et qui parle des valeurs de la République ? Est-ce que vous l'avez lu, ce livre ?
Alors, je n'ai pas lu ce livre, mais les valeurs de la République, évidemment, ça me parle, puisque c'est une politique que nous portons et que nous faisons vivre dans le département avec tous les partenaires.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio, Madame la Préfète. Je vous dis à très bientôt pour une revoyure sur tous ces dossiers.
Très volontiers, avec plaisir.
Merci. Merci.
Merci Kader Youb, c'était Politiquement Votre. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur cfmradio.fr. À la prochaine.
Au revoir.